Chapitre 1 Un glorieux débris de l'Empire. Vers 3 heures de l'après-midi, dans le mois d'octobre de l'année 1844, un homme âgé d'une 60aine d'années, mais à qui tout le monde eût donné plus que son âge, allait le long du boulevard des Italiens, le nez à la piste, les lèvres papelardes, comme un négociant qui vient de conclure une excellente affaire ou comme un garçon content de lui-même au sortir d'un boudoir. C'est à Paris la plus grande expression connue de la satisfaction personnelle chez l'homme. En apercevant de loin ce vieillard, les personnes qui sont là tous les jours assises sur des chaises, livrées au plaisir d'analyser les passants, laissaient toutes poindre dans leur physionomie ce sourire particulier aux gens de Paris, et qui dit tant de choses ironiques, moqueuses ou compatissantes, mais qui, pour animer le visage d'un Parisien, blasé sur tous les spectacles possibles, exige de hautes curiosités vivantes. Un mot fera comprendre, et la valeur archéologique de ce bonhomme est la raison du sourire qui se répétait comme un écho dans tous les yeux. On demandait à Hyacinthe, un acteur célèbre par ses saillies, où il faisait faire les chapeaux à la vue desquels la salle pouffe de rire. « Je ne les fais point faire, je les garde !» répondit-il. Eh bien, il se rencontre dans le million d'acteurs qui composent la grande troupe de Paris, des Hyacinthes sans le savoir, qui gardent sur eux tous les ridicules d'un temps et qui vous apparaissent comme la personnification de toute une époque pour vous arracher une bouffée de gaieté quand vous vous promenez en dévorant quelques chagrins amers causés par la trahison d'un ex-ami. En conservant dans quelques détails de sa mise une fidélité quand même au mode de l'an 1806, ce passant rappelait l'Empire sans être par trop caricature. Pour les observateurs, cette finesse rend ces sortes d'évocations extrêmement précieuses. Mais cet ensemble de petites choses voulait l'attention analytique dont sont doués les connaisseurs en flânerie. Et, pour exciter le rire à distance, le passant devait offrir une de ces énormités à crever les yeux, comme on dit, et que les acteurs recherchent pour assurer le succès de leurs entrées. Ce vieillard, sec et maigre, portait un Spencer couleur noisette sur un habit verdâtre à boutons de métal blanc. Un homme en Spencer, en 1844, c'est, voyez-vous, comme si Napoléon eût daigné ressusciter pour 2 heures. Le Spencer fut inventé, comme son nom l'indique, par un lord sans doute vain de sa jolie taille. Avant la paix d'Amiens, cet Anglais avait résolu le problème de couvrir le buste sans assommer le corps par le poids de cet affreux carrick qui finit aujourd'hui sur le dos des vieux cochers de fiacre. Mais comme les fines tailles sont en minorité, la mode du Spencer pour homme n'eut en France qu'un succès passager, quoique ce fût une invention anglaise. À la vue du Spencer, les gens de 40 à 50 ans revêtaient par la pensée ce monsieur de bottes à revers, d'une culotte de casimir vert pistache à nœuds de ruban, et se revoyaient dans le costume de leur jeunesse. Les vieilles femmes se remémoraient leurs conquêtes. Quant aux jeunes gens, ils se demandaient pourquoi ce vieil Alcibiade avait coupé la queue de son paletot. Tout concordait si bien à ce Spencer que vous n'eussiez pas hésité à nommer ce passant un homme empire, comme on dit un meuble empire. Mais il ne symbolisait l'empire que pour ceux à qui cette magnifique et grandiose époque est connue au moins des visus. Car il exigeait une certaine fidélité de souvenir quant aux modes. L'Empire est déjà si loin de nous que tout le monde ne peut pas se le figurer dans sa réalité gallo-grecque. Le chapeau mis en arrière découvrait presque tout le front avec cette espèce de crânerie par laquelle les administrateurs et les Pékins essayèrent alors de répondre à celle des militaires. C'était d'ailleurs un horrible chapeau de soie à 14 francs, aux bords intérieurs duquel de hautes et larges oreilles imprimaient des marques blanchâtres, vainement combattues par la brosse. Le tissu de soie, mal appliqué, comme toujours, sur le carton de la forme, se plissait en quelques endroits et semblait être attaqué de la lèpre, en dépit de la main qui le pansait tous les matins. Sous ce chapeau, qui paraissait près de tomber, s'étendait une de ces figures falotes et drôlatiques, comme les Chinois seuls en savent inventer pour leur magot. Ce vaste visage percé comme une écumoire, où les trous produisaient des ombres, et refouillé comme un masque romain, démentait toutes les lois de l'anatomie. Le regard n'y sentait point de charpente. Là où le dessin voulait des os, la chair offrait des méplats gélatineux. Et là où les figures présentent ordinairement des creux, celles-là se contournaient en bosses flasques. Cette face grotesque, écrasée en forme de potiron, attristée par des yeux gris surmontés de deux lignes rouges au lieu de sourcils, était commandée par un nez à la Don Quichotte, comme une plaine est dominée par un bloc erratique. Ce nez exprime, ainsi que Cervantes avait dû le remarquer, une disposition native à ce dévouement aux grandes choses qui dégénère en duperie. Cette laideur, poussée tout au comique, n'excitait cependant point le rire. La mélancolie excessive qui débordait par les yeux pâles de ce pauvre homme atteignait le moqueur et lui glaçait la plaisanterie sur les lèvres. On pensait aussitôt que la nature avait interdit à ce bonhomme d'exprimer la tendresse sous peine de faire rire une femme ou de l'affliger. Le Français se tait devant ce malheur qui lui paraît le plus cruel de tous les malheurs, ne pouvoir plaire.